Chapitre 14. Voici l'œuvre de Muad'Dib. Il vit dans la réserve subliminale de chaque individu une banque mémorielle inconsciente dont l'acquis remontait à la cellule primitive de notre genèse commune. Chacun d'entre nous, dit-il, peut mesurer la distance qui le sépare de cette origine commune. Il vit cela, il le révéla, et accomplit le bond audacieux de la décision. Il se fixa pour tâche d'intégrer la mémoire génétique dans l'évaluation de l'évolution. Ainsi, il franchit les rideaux du temps. Il fit de l'avenir et du passé une seule et même chose. Telle fut la création de Muad'Dib, incarnée dans son fils et dans sa fille. Le Testament d'Arrakis, par Ar-Kalada. Le soleil de Saloussa Secundus allait vers son zénith, et Faradine, arpentant le jardin privé du palais royal de son grand-père, regardait son ombre rétrécir. De temps à autre, il devait accélérer le pas pour rester à la hauteur du grand Bachar qui l'accompagnait. « J'ai des doutes, Tiekanik, » dit-il. « Oh, bien sûr, je ne nie pas que le trône m'attire, mais... » Il inspira profondément. « Tant de choses m'intéressent. » Tiekanik, qui sortait tout juste d'une violente dispute avec la mère de Faradine, regarda discrètement le prince. Le jeune homme approchait de son 18e anniversaire et ses traits changeaient, se faisaient fermes. Jour après jour, l'image de Wen Sixia s'estompait, tandis que s'imposait celle du vieux Shaddam, qui avait sacrifié les charges du trône à ses passions personnelles. Ce qui lui avait finalement coûté le trône, son sens de l'autorité s'étant à la longue émoussé.
« Il faut faire un choix, » dit Tiekanik. « Certes, vous aurez encore le temps de vous adonner à ce qui vous intéresse par ailleurs, mais... »
Faradine se mordit la lèvre inférieure. C'était le devoir qui le retenait ici, et il en ressentait de la frustration. Il aurait 100 fois préféré se trouver dans l'enclave rocheuse où se déroulaient les expériences sur les truites des sables. Voilà un plan qui avait des implications gigantesques. S'il réussissait à arracher le monopole de l'épice aux Atreides, tout serait possible. « Es-tu certain que ces jumeaux seront éliminés ?» demanda-t-il.
« Rien n'est absolument sûr, mon prince, mais les perspectives sont bonnes. »
Faradine haussa les épaules. L'assassinat faisait partie de la vie royale. L'élimination des personnages importants et ses subtiles variations étaient inscrites dans le langage. Un simple mot permettait de distinguer entre le poison dans une boisson et celui dans un mets. Faradine estimait que les jumeaux Atreides seraient tués par le poison. Et cette pensée était déplaisante. À tout point de vue, les jumeaux étaient dignes d'intérêt. Faudra-t-il que nous nous rendions sur Arrakis?
C'est préférable. Nous pourrons y exercer une plus grande pression.
Faradine semblait vouloir éviter une certaine question, et Tiekanik se demandait bien laquelle. « Je suis inquiet, Tiekanik, » déclara Faradine à l'instant où il contournait une haie pour s'approcher d'une fontaine enfouie sous des roses noires géantes. On entendait le claquement des cisailles de jardiniers invisibles.
« Oui, » l'encouragea Tiekanik.
« Cette religion que tu as épousée... »«
Rien d'étrange à cela, mon prince, » commença Tiekanik, espérant que sa voix demeurerait ferme et convaincante. « Cette religion s'adresse au guerrier qui est en moi. C'est une religion qui convient à un Sardaukar. »
Cela au moins était vrai.
« Oui, mais cela semble tant plaire à ma mère. »«
Maudite Wen Sixia, » pensa Tiekanik. « Elle a rendu son fils soupçonneux. La vie de votre mère m'importe peu. La religion d'un homme ne concerne que lui. Peut-être y discerne-t-elle un moyen de faciliter votre accession au trône ?»
C'est ce que je me disais.
Ah, qu'il est malin, songea Tiekanik, avant de reprendre.
Penchez-vous sur cette religion. Vous verrez très vite pourquoi je l'ai choisie.
Pourtant, le prêche de Muad'Dib, après tout, c'était un Atreide.
Tout ce que je puis dire, c'est que les voies de Dieu sont mystérieuses.
Je comprends. Dis-moi, Tiek, pourquoi m'as-tu demandé de faire cette promenade avec toi?
Il est presque midi. Et d'ordinaire, tu es à l'extérieur sur les ordres de ma mère. Tiekanik s'arrêta auprès d'un banc de pierre, non loin de la fontaine aux roses géantes. Le spectacle des jets le calmait,
et il n'en détourna pas les yeux tandis qu'il déclarait
« Mon prince, j'ai fait une chose que votre mère pourrait bien ne pas apprécier. » Et il pensa « S'il croit cela, ce maudit stratagème réussira. Amenez ici ce satané prêcheur. Elle a été folle. Et à quel prix ?» Il demeura silencieux et Faradine demanda « D'accord, Tiek, et qu'as-tu donc fait ?»
J'ai amené ici un expert en oniromancie. »
Le prince lui décocha un regard acéré.
Certains parmi les plus vieux des Sardaukars jouaient au jeu de l'interprétation des rêves, et de plus en plus depuis leur défaite par le rêveur suprême, Muad'Dib. Ils se disaient que quelque part dans leurs rêves, ils pourraient trouver la route qui les conduirait à nouveau à la puissance et à la gloire. Mais Tiekanik, lui, s'était toujours détourné de cette pratique.
« Ça ne te ressemble pas, Tiek, » dit Faradine.
« Alors, je ne puis que parler de ma nouvelle religion, »
répondit Tiekanik en s'adressant à la fontaine.
C'était pour parler de la religion, bien sûr, qu'ils avaient pris le risque d'amener le prêcheur sur ce monde.
« Parle-moi donc de cette religion, » dit Faradine.
« Comme mon prince l'ordonne. »
Tiekanik se retourna et regarda en face l'adolescent qui portait en lui désormais tous les rêves distillés sur le chemin que la maison de Corino suivrait.
L'Église et l'État, mon prince, de même que la foi et la raison scientifique, et même plus encore, la tradition et le progrès, tout est réconcilié dans les enseignements de Muad'Dib. Ils nous disent qu'il n'existe pas d'opposés absolus, sinon dans les croyances des hommes, et parfois dans leurs rêves. On découvre le futur dans le passé, et l'un et l'autre sont une partie d'un tout.
Malgré les doutes qu'il ne pouvait s'empêcher d'éprouver, Faradine fut impressionné. Il avait lu dans la voix de Tiekanik un accent à la fois sincère et douloureux, comme si le Sardaukar était en lutte contre des pressions internes.
« Et c'est pourquoi tu m'as amené cet interprète des rêves ?»«
Oui, mon prince. Peut-être votre songe pénètre-t-il le temps. Vous retrouvez la conscience de votre être intérieur lorsque vous reconnaissez l'univers comme un ensemble cohérent. » Vos rêves, eh bien...
Mais je n'ai jamais parlé sérieusement de mes rêves, protesta Faradine. Ils sont curieux pour moi, c'est tout.
Je n'ai pas soupçonné une seule fois que tu, mon prince. Il n'est pas une chose que vous puissiez faire qui soit sans importance.
C'est très flatteur, Tiek. Mais crois-tu vraiment que ton homme peut voir le cœur des grands mystères?
Je le crois, mon prince.
Alors, contrarions ma mère?
Vous acceptez de le voir?
Bien sûr.
Du moment que tu l'as amené ici pour contrarier ma mère.
Est-ce qu'il se moque de moi ? Se demanda Tiekanik.
Je dois vous avertir, le vieil homme porte un masque. C'est un appareil Ixien qui permet aux non-voyants de voir par leur peau.
Il est aveugle ?
Oui, mon prince.
Sait-il qui je suis ?
Je le lui ai dit, mon prince.
Très bien, allons le retrouver.
Si mon prince veut bien attendre ici un instant, je lui amènerai cet homme.
Le regard de Faradine se posa sur la fontaine, et il sourit. Cet endroit convenait aussi bien que n'importe quel autre pour cette folie.
« Tu lui as parlé de mes rêves ? » demanda-t-il.
« Seulement en termes généraux, mon prince. Il vous demandera de lui en faire vous-même le récit. »«
Oh, très bien. J'attends ici. Amène-moi ce personnage. »
Faradine se retourna. Il entendit le pas pressé de Tiekanik qui s'éloignait. Ses yeux furent attirés par le chapeau brun d'un jardinier qui se montrait derrière une haie. Des cisailles brillaient au-dessus des feuilles selon un rythme hypnotique.
« Toute cette histoire de rêve est absurde, » pensa-t-il.
« Tiek a eu tort de faire cela sans me consulter. Bizarre qu'il se convertisse à cette religion à son âge. Et maintenant, ses rêves ?» Il entendit des pas. Celui de Tiek, d'abord. Le pas net qui lui était familier. Et un autre. Plus traînant. Il se retourna et son regard se posa sur l'interprète des rêves. Le masque Ixien était noir, fait d'une sorte de gaz. Il couvrait tout le visage, du front jusqu'à la pointe du menton. Il ne comportait pas de fente pour les yeux. Pour celui qui croyait aux prouesses Ixiennes, le masque était un œil unique et énorme. Tiekanik s'arrêta à deux pas de Faradine, mais le vieil homme s'approcha plus près encore.
L'interprète des rêves. Dit Tiekanik.
Faradine hocha la tête. Le vieil homme masqué eut un toussotement rauque et profond qui semblait venir de ses entrailles.
Faradin reconnut le parfum aigre de l'épis. Il émanait de l'ample robe grise qui couvrait l'homme.
« Ce masque fait-il partie de ta chair ?»
demanda-t-il, conscient dans la même seconde qu'il essayait d'éviter de parler immédiatement des rêves.
« Aussi longtemps que je le porte, » dit le vieil homme. Il y avait un rien d'amertume dans sa voix, de même qu'une trace d'accent frémène. « Parlez-moi de votre rêve. »
Faradin haussa les épaules. « Pourquoi pas ? C'était bien pour ça que Tikanik avait amené le vieil homme. »
Ou sinon, le doute assaillit soudain Faradin. Il demanda « Pratiques-tu vraiment l'oniromancie ?»«
Je suis venu interpréter votre rêve, puissant seigneur. »
À nouveau, le prince haussa les épaules. Ce personnage masqué le rendait nerveux. Il regarda dans la direction de Tikanik, qui demeurait impassible, les bras croisés, les yeux fixés sur la fontaine aux roses.
« Votre rêve, » insista le vieil homme.
Faradin inspira profondément et entreprit son récit. Peu à peu, les mots lui vinrent plus aisément. Il parla de l'eau qui, dans le puits, coulait vers le haut, des mondes qui étaient autant d'atomes qui dansaient dans sa tête, du serpent qui se changeait en vers des sables pour finir en un nuage de poussière. Il fut surpris de s'apercevoir qu'il avait quelques difficultés à évoquer le serpent. Quelque chose en lui s'y opposait, et il en conçut de la colère tandis qu'il parlait. Le vieil homme demeura silencieux et impassible jusqu'à l'instant où Faradin se tut. Son souffle animait doucement, régulièrement, le masque de gaz noir. Comme le silence s'établissait et persistait, Faradin demanda « Vous n'allez pas interpréter mon rêve ?»«
Je l'ai interprété. »
La voix du vieil homme semblait venir d'une distance énorme.
Et alors ?
Il y avait un ton grinçant dans la voix de Faradin, et il prit conscience de la tension créée par le récit de son rêve. Le vieil homme demeurait silencieux.
Dis-moi !
Maintenant, il y avait de la colère dans le ton du prince.
J'ai dit que j'interpréterais votre rêve, mais je n'ai pas dit que je vous ferai part de mon interprétation.
Tikanik lui-même réagit à ces mots. Il laissa tomber ses bras et serra les poings, et il grommela
« Comment ?»« Je n'ai pas dit que je révélerais mon interprétation, »
répéta le vieil homme.
« Tu désires plus d'argent ?»
demanda Faradin.
« Je n'en ai pas demandé pour être conduit ici. »
Il y avait une fierté glacée dans cette réponse, et la colère de Faradin s'adoucit. Ce vieil homme était courageux, quoi qu'il en fût. Il devait savoir que la désobéissance pouvait entraîner la mort.
« Permettez-moi, mon prince, » intervint Tikanik, voyant que Faradin allait reprendre la parole.
Puis se tournant vers le vieil homme,
« Veux-tu nous dire pourquoi tu refuses de nous révéler ton interprétation ?»«
Oui, mes seigneurs. Le rêve me dit qu'il serait vain d'expliquer de telles choses. »
Faradin ne put se contenir plus longtemps.
« Veux-tu dire que je connais déjà la signification de mon rêve ?»«
Peut-être, monseigneur, mais tel n'est pas mon propos. »
Tikanik s'avança pour se retrouver aux côtés de Faradin. Ensemble, ils regardèrent le vieil homme.
« Explique-toi, » dit le Sardaukar.
« Sur l'heure, » ajouta Faradin.
« Si je devais parler de ce rêve, explorer cette eau, cette poussière, ces serpents et ces vers, analysez ces atomes qui dansent dans votre tête comme dans la mienne. Ah, puissant seigneur, mes mots ne pourraient que vous troubler, et vous prétendriez que je n'ai pas compris.
Crains-tu que tes paroles ne provoquent ma colère ?
Demanda Faradin.
Monseigneur, vous êtes déjà en colère.
Ne nous fais-tu pas confiance ?
Demanda Tikanik.
C'est presque cela, monseigneur. Je ne vous fais nulle confiance à l'un comme à l'autre. Pour la simple raison que vous n'avez nulle confiance en vous-même.
Tu t'approches dangereusement du bord, dit Tikanik. Des hommes ont été exécutés pour s'être montrés moins retors que toi.
Faradin acquiesça.
Ne nous induis pas en fureur.
Les conséquences fatales de la fureur des Corino sont bien connues, monseigneur de Salusa Secundus, dit le vieil homme.
Tikanik posa une main apaisante sur le bras de Faradin.
nous provoques-tu afin de mourir ?
Faradine n'avait pas songé à cela. Il se sentit glacé à la pensée des implications d'une telle attitude. Ce vieil homme qui s'était donné le nom de prêcheur, était-il plus qu'il ne semblait ? Quelles pourraient être les conséquences de sa mort ? Les martyrs pouvaient être dangereux.
« Je doute que vous m'assassiniez quoi que je puisse dire, » fit le prêcheur. « Je pense que vous connaissez ma valeur, Bachar, et votre prince la devine désormais. »
« Tu refuses absolument d'interpréter son rêve ?» insista Tikhanik.
« Je l'ai interprété. »
« Et tu ne révéleras pas ce que tu y vois. »
« M'en voulez-vous, monseigneur ?»«
En quelle manière peux-tu m'être utile ?» demanda Faradin. Le prêcheur leva alors sa main droite et dit
« Si je fais ce geste, Duncan Idaho viendra à moi et m'obéira. »
« Quelle est donc cette absurde prétention ?» demanda Faradin.
Tyrannik secoua la tête, se souvenant de sa dispute avec Wenzichia.
« Mon prince, cela pourrait être vrai. Ce prêcheur a de nombreux fidèles sur Dune. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il venait de ce monde ?»
Avant que Tyrannik ait pu répondre, le prêcheur répondit à Faradin.
Monseigneur, vous ne devez pas vous sentir coupable en ce qui concerne Arrakis. Vous n'êtes qu'un produit de votre temps. C'est le plaidoyer particulier que tout homme peut faire lorsqu'il est assailli par la culpabilité.
La culpabilité !
Répéta Faradin, outré.
Le prêcheur se contenta de hausser les épaules. Et de façon étrange, Faradin passa de la colère à l'amusement. Il se mit à rire à gorge déployée, et Tyrannik le regarda avec inquiétude.
« Je t'aime bien, prêcheur, » dit-il enfin.
« Cela m'est un plaisir, prince. »«
Nous te trouverons un appartement ici, dans ce palais, » reprit Faradin. « Tu seras mon interprète officiel des rêves, bien que tu ne m'aies pas révélé le moindre mot de ton interprétation. Tu pourras également me conseiller à propos de Dune. Ce lieu m'intéresse au plus haut point. »
« Je ne puis faire cela, prince. »
La colère revint effleurer Faradin. Ses yeux prirent un éclat dur comme il se posait sur le masque noir du prêcheur.
« Pourquoi donc ? Dis-le-moi. »«
Mon prince, » intervint Tyrannik, posant à nouveau une main sur son bras.
« Qu'y a-t-il donc, Tiek ? » ?»«
Nous l'avons amené ici sous contrat passé avec la guilde. Il doit regagner Arrakis. »«
On me rappelle sur Arrakis, » dit le prêcheur.
Qui te rappelle ?
Un pouvoir plus grand que le tien, prince.
Faradin regarda Tyrannik.
Est-il un espion atréide ?
C'est peu probable, mon prince. Sa tête a été mise à prix par Alia.
Alors si ce ne sont pas les atréides qui te rappellent sur Arrakis, qui ?
Demanda Faradin au prêcheur.
Un pouvoir plus grand que celui des atréides.
Faradin eut un rire nerveux. Tout cela n'était qu'un ramassis de délires mystiques. Comment Tiek avait-il pu se laisser abuser ainsi ? Ce prêcheur avait été rappelé sur Dune. Par un rêve, sans doute. De quelle importance étaient les rêves ?
Tout ceci était une perte de temps, Tiek, dit-il. Pourquoi m'avoir convié à cette farce ?
L'enjeu est double, mon prince. Cet interprète des rêves a promis de me livrer Duncan Idaho et d'en faire un agent de la maison de Corino. Tout ce qu'il m'a demandé a été de vous rencontrer pour interpréter votre rêve.
Et Tyrannik songea.
C'est du moins ce qu'il a dit à Wenzichia.
À nouveau, il était assailli par le doute.
Pour quelle raison mon rêve est-il si important pour toi, vieil homme ?
Demanda Faradin.
Il me dit que de grands événements se dirigent vers une conclusion logique. Je dois hâter mon retour.
Ironique, Faradin remarqua.
Et tu resteras impénétrable. Me refusant ton conseil.
Les conseils, prince, sont une facilité dangereuse. Mais je me permettrai quelques mots que vous pourrez accepter comme conseil ou dans tout autre sens qui vous conviendra.
Fais donc.
Le prêcheur redressa la tête et le masque de gaz noir se trouva face au visage de Faradin.
Les gouvernements s'érigent et s'effondrent pour des raisons qui semblent insignifiantes, prince. Des événements si mineurs. Une dispute entre deux femmes. La direction du vent un certain jour. Un éternuement, une toux, la longueur d'une parure ou la rencontre improbable d'un grain de sable et de l'œil d'un courtisan.
ce ne sont pas toujours les soucis majeurs des ministres impériaux qui dessinent le cours de l'histoire. Pas plus que ce ne sont les gestes des pontifes qui dirigent les mains de Dieu. »
Sans qu'il pût en expliquer la raison, Faradine se sentit profondément troublé par ces paroles. Une phrase en particulier avait éveillé l'attention de Tikhanik. Pourquoi le prêcheur avait-il fait allusion à une parure? Il pensa aux costumes impériaux qui avaient été adressés aux jumeaux Atréides, aux tigres dressés à l'attaque. Fallait-il voir un subtil avertissement dans les mots du vieil homme? Que savait-il au juste?
Que signifie ce conseil? Demanda Faradine.
Pour réussir, dit le prêcheur, il vous faut ramener votre stratégie à son point d'application. Où applique-t-on une stratégie? À un lieu particulier, à des personnes particulières. Même avec la plus grande minutie, il se trouvera un petit détail sans signification directe qui vous échappera. Votre stratégie, prince, peut-elle être réduite aux ambitions de l'épouse d'un gouverneur de région?
D'une voix glacée, Tikhanik intervint.
Que signifie cette rengaine sur la stratégie, prêcheur? Que peut en retirer mon prince?
On l'incite à désirer un trône, dit le prêcheur. Je lui souhaite bonne chance, mais il lui faudra bien plus que de la chance.
Voilà de dangereuses paroles, dit Faradine. Comment peux-tu avoir l'audace de les prononcer?
Les ambitions tendent à ne pas se plier aux réalités. Je dis ces paroles audacieuses parce que vous êtes à un carrefour. Vous pourriez devenir admirable, mais pour l'heure, vous êtes entouré par ceux-là qui ne cherchent point de justification morale, par des conseillers guidés par la seule stratégie. Vous êtes jeune, fort et dur, mais il vous manque une éducation d'un certain type grâce à laquelle votre caractère pourrait évoluer. Ce qui est triste, puisque vous avez des faiblesses dont je vous ai décrit les dimensions.
Que veux-tu dire? Demanda Tikhanik.
Prends garde à tes paroles, intervint Faradine. Qu'est-ce donc que cette faiblesse?
Vous n'avez pas accordé une pensée au genre de société qui aurait votre préférence. Vous ne prenez pas en considération les aspirations de vos sujets, même la forme de l'impérium que vous souhaitez est vague dans vos spéculations.
Le prêcheur tourna son visage masque vers Tikhanik.
Votre regard est fixé sur le pouvoir, et non sur ses subtils usages et ses risques. Ainsi, votre avenir est empli d'inconnus manifestes. Disputes entre femmes, tout et jour devant. Comment pouvez-vous déterminer une époque alors que vous ne pouvez voir jusqu'au moindre détail? La force de votre esprit ne vous servira de rien. Votre faiblesse est là.
Un long moment, Faradine observa le vieil homme, réfléchissant aux implications profondes de ses pensées, à la persistance de concepts si discrédités. La morale. Les objectifs sociaux. Des mythes bons à mettre à côté de la croyance au mouvement ascendant de l'évolution.
Nous avons entendu assez de paroles, dit Tikhanik. Qu'est-il du prix convenu, prêcheur?
Duncan Idaho est à vous. Veillez à bien vous en servir, c'est un joyau sans prix.
Oh, nous avons la mission qui lui convient, dit Tikhanik.
Il regarda Faradine.
Pouvons-nous nous retirer, mon prince?
Qu'il fasse ses bagages avant que je change d'idée, dit Faradine.
Et il ajouta avec un regard dur. Je n'aime pas la façon dont tu t'es servi de moi, Tiek.
Pardonnez-lui, prince, intervint le prêcheur. Votre fidèle Bachar accomplit la volonté de Dieu sans le savoir.
Sur ce, s'inclinant, le prêcheur s'éloigna et Tikhanik lui emboîta précipitamment le pas. Faradine, tout en regardant les deux silhouettes qui allaient disparaître, songea, je dois me pencher sur cette religion que Tiek a épousée. Il sourit tristement.
Quel interprète des rêves!
Mais qu'importe. Mon rêve n'était pas une chose importante.